Les coquetteries du Congrès n'étaient pas l'unique raison pour laquelle j'espérais voir la loi sur le plafonnement adoptée avant décembre. Un sommet des Nations Unies sur le réchauffement climatique devait avoir lieu le même mois à Copenhague. Après 8 années durant lesquelles les États-Unis de George W. Bush s'étaient absentés de la table des négociations climatiques, les attentes internationales étaient au plus haut. Et il me serait difficile d'appeler les autres pays à une action déterminante si nous ne montrions pas l'exemple. Je savais qu'une loi nous mettrait en meilleure posture pour négocier et peut-être insuffler l'action collective sans laquelle nous ne pourrions pas sauver la planète. Car les gaz à effet de serre ignorent les frontières. Des mesures nationales de baisse des émissions pourraient procurer un sentiment de supériorité morale à la population du pays en question, mais les températures continueraient à grimper si ses voisins ne limitaient pas. Ainsi, pendant que Ram et mon équipe législative s'affairaient dans les couloirs du Congrès, mes spécialistes de politique étrangère et moi cherchions comment faire remonter les États-Unis en première ligne des efforts climatiques internationaux. Et sur ce front, notre leadership avait autrefois été une réalité. En 1992, lorsque le monde s'était réuni à Rio de Janeiro pour le sommet de la Terre, le président George H.W. Bush avait signé, aux côtés des représentants de 153 autres pays, la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, le premier accord mondial cherchant à stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre avant qu'elles n'atteignent des niveaux catastrophiques. Peu après, l'administration Clinton avait repris le flambeau en collaborant avec d'autres États pour traduire les objectifs généraux de Rio en un traité contraignant. Le résultat final, baptisé Protocole de Kyoto, posait les bases d'une action internationale, avec des objectifs précis de réduction des gaz à effet de serre, un système mondial similaire au cap and trade et des mécanismes de financement pour aider les pays pauvres à passer aux énergies non polluantes et préserver les forêts tropicales telles l'Amazonie qui stocke le CO2. Les écologistes ont salué en Kyoto un tournant décisif dans la lutte contre le réchauffement climatique. Partout dans le monde, les gouvernements des pays participants ont ratifié le traité. Mais aux États-Unis, où il faut pour cela réunir 2/3 des voix du Sénat, Kyoto s'est heurté à un mur. Nous étions en 1997, les républicains contrôlaient le Sénat, et ils étaient peu nombreux à juger que le réchauffement climatique était un vrai problème. Au contraire, le président de la commission des affaires étrangères du Sénat, l'ultra-conservateur Jesse Helms, se vantait même de mépriser autant les écologistes que l'ONU et les traités multilatéraux. Et du côté démocrate, de puissantes figures comme Robert Byrd, sénateur de la Virginie-Occidentale, s'opposait vivement à toutes les mesures susceptibles de causer du tort au secteur des énergies fossiles, qui était vital pour son État. Conscient de la situation, le président Clinton a décidé de ne pas présenter Kyoto devant le Sénat, préférant le report à la défaite. La bonne étoile politique de Clinton recommencerait à briller après qu'il aura survécu à la destitution, mais le texte resterait au fond d'un tiroir jusqu'à la fin de son mandat. La dernière lueur d'espoir de ratification a fini par s'éteindre lorsque George W. Bush a battu Al Gore à l'élection présidentielle de 2000. Et c'est pourquoi, en 2009, un an après la prise d'effet du protocole, les États-Unis étaient un des 5 pays à rester sur la touche. Les 4 autres, sans ordre particulier, étaient Andorre et le Vatican, 2 États si petits, avec une population combinée ne dépassant pas les 80 000 âmes, qui n'avaient pas été invités à signer et avaient un simple statut d'observateur, Taïwan, qui aurait bien aimé participer mais ne l'avait pas pu car son statut de nation indépendante était toujours contesté par la Chine, et l'Afghanistan, qui avait l'excellente excuse de se retrouver en miettes après 30 années d'occupation et une guerre civile sanglante. On sait qu'on a touché le fond quand nos plus proches alliés nous trouvent encore plus nuls que la Corée du Nord dans un domaine, a commenté Ben dépité. En me repenchant sur cette histoire, j'ai imaginé un univers parallèle dans lequel les États-Unis, sans rivaux au sortir de la guerre froide, auraient consacré l'intégralité de leur puissance et de leur autorité à lutter contre le réchauffement climatique. J'ai imaginé les possibles transformations du réseau énergétique mondial et la réduction des émissions qui en auraient découlé, les progrès géopolitiques résultant d'une moindre entreprise des pétrodollars et de l'affaiblissement des dictatures qu'ils financent, la culture de la durabilité qui aurait pu s'enraciner dans les pays développés et en développement. Mais, alors que je planchais avec mon équipe pour dessiner une stratégie adaptée à notre univers, j'ai dû admettre une vérité flagrante. Même avec un Sénat désormais démocrate, je ne réussirais pas à rassembler les 67 voix nécessaires à la ratification du protocole de Kyoto. Nous rencontrions déjà assez de difficultés avec notre projet de loi au Sénat. Après avoir passé des mois à amender le texte, Barbara Boxer et le démocrate John Kerry du Massachusetts n'était toujours pas parvenu à trouver un collègue républicain qui soit disposé à le défendre, et il nous disait à présent qu'une nouvelle approche, plus centriste, s'imposait peut-être. Puisque nous ne pouvions plus compter sur John McCain, nous avons reporté nos espoirs sur un de ses amis au Sénat, Lindsey Graham, de la Caroline du Sud. Petit homme avec un museau de boxer et un chaleureux accent du Sud capable de virer à la menace en un clin d'œil, Graham était surtout réputé pour son ardent bellicisme. Il faisait partie, avec McCain et Lieberman, des « Three Amigos » qui avaient été les plus grands promoteurs de la guerre d'Irak. Du reste, Graham était intelligent, charmeur, caustique, sans scrupules, rompu à l'exercice des médias et, grâce en partie à sa réelle adoration pour John McCain, parfois capable de s'écarter de l'orthodoxie conservatrice, l'exemple le plus marquant étant sa défense de la réforme de l'immigration. Récemment réélu pour 6 ans, Graham pouvait prendre des risques et même s'il ne s'était jamais franchement intéressé au réchauffement climatique, il paraissait curieux de marcher dans les pas de McCain en concluant un important accord transpartisan. Début octobre, il a proposé de nous fournir les quelques républicains qui nous manquaient pour faire adopter notre loi par le Sénat, à condition que Lieberman lui prête main forte et que Kerry persuade les écologistes d'accepter l'aide financière à l'énergie nucléaire et l'ouverture de nouvelles zones de forage le long des côtes américaines. Je n'étais pas ravi de devoir dépendre de Graham. Pour l'avoir connu au Sénat, je savais qu'il aimait jouer un personnage de conservateur raffiné et plein de recul, qui désarmait les démocrates et la presse en exposant sans ménagement les angles morts de son parti et exhortait les politiciens à s'extraire du carcan de leur idéologie. Cependant, lorsque venait le moment de voter ou d'affirmer une position un tant soit peu risquée, Graham trouvait très souvent des excuses pour se défiler. Un trait que j'ai expliqué à Ram de cette façon. Vous savez, dans les romans d'espionnage ou les films de braquage, quand on nous présente les personnages au début, eh bien, Lindsey, c'est celui qui finit par trahir tout le monde pour sauver sa peau. Mais si nous étions réalistes, nous n'avions pas le choix. « On n'a que lui, mon vieux », a répliqué Ram, « sauf si Lincoln et Teddy Roosevelt débarquent à l'improviste. » Et pour éviter de lui faire peur en l'associant de trop près à la Maison-Blanche, nous avons décidé de laisser à Graham et aux autres les coudées franches pour élaborer leur propre version du texte, quitte à modifier plus tard les dispositions qui poseraient problème. Pendant ce temps, nous préparions Copenhague. Le protocole de Kyoto allait expirer en 2012 et le traité suivant était déjà en cours de négociation depuis 1 an sous l'égide de l'ONU, avec pour objectif de trouver un accord avant le sommet de décembre. Mais nous n'avions pas très envie de signer un nouveau traité reprenant les termes de l'original. Mes conseillers et moi avions des réserves sur les conceptions politiques sous-tendant Kyoto, en particulier la notion de responsabilité commune mais différenciée qui faisait reposer la baisse des émissions presque exclusivement sur les économies avancées, à savoir les États-Unis, l'Union européenne et le Japon. En termes d'équité, demander aux pays riches d'en faire plus que les pays en développement se justifiait parfaitement. Non seulement l'accumulation de gaz existants était en grande partie le produit d'un siècle d'industrialisation occidentale, mais les pays riches avaient en outre une empreinte carbone par habitant plus élevée que le reste du monde. Et il était difficile de demander à des pays en développement tels que le Mali, Haïti ou le Cambodge, où tant de gens n'avaient toujours pas l'électricité, de réduire leurs émissions déjà négligeables et de freiner potentiellement leur croissance à court terme. Les Américains et les Européens pouvaient obtenir des résultats bien plus remarquables en montant ou en descendant leur thermostat de quelques degrés. Le problème était que, selon le protocole de Kyoto, l'idée de responsabilité différenciée signifiait que les puissances émergentes comme la Chine, l'Inde et le Brésil n'avaient aucune obligation de réduire leurs émissions. Cela pouvait se comprendre au moment de l'élaboration du protocole, 12 ans plus tôt, avant que la mondialisation n'ait totalement transformé l'économie mondiale. Mais en plein milieu d'une violente récession, alors que les délocalisations régulières faisaient déjà enrager les Américains, un traité imposant des contraintes aux entreprises du pays sans rien demander à celles de Shanghai ou de Bangalore ne passerait jamais. D'autant moins que les émissions de dioxyde de carbone chinoises avaient dépassé celles des États-Unis en 2005 et que les chiffres indiens étaient eux aussi à la hausse. Et si la consommation d'énergie par habitant demeurait bien plus élevée aux États-Unis qu'en Chine ou en Inde, les experts annonçaient un doublement de l'empreinte carbone de ces pays dans les décennies à venir, à mesure que les 2 milliards de personnes qui les peuplaient chercheraient à se hisser au niveau de confort des pays riches. Si cela se vérifiait, alors il n'y avait rien à faire. La planète était foutue. Un argument que les républicains, du moins ceux qui ne réfutaient pas en bloc le réchauffement climatique, aimaient utiliser pour justifier l'inaction des États-Unis. Il nous fallait une approche neuve. Avec l'appui décisif de Hillary Clinton et de Todd Stern, l'émissaire spécial du département d'État pour le climat, mon équipe a mis au point une proposition d'accord transitoire restreint, ancrée autour de trois engagements communs. Premièrement, tous les pays, y compris les puissances émergentes comme la Chine ou l'Inde, devaient présenter un plan de réduction de leurs émissions. Ces plans différeraient selon les pays, en fonction de leur richesse, de leur profil énergétique et de leur niveau de développement, et seraient révisés à intervalles réguliers en tenant compte de leur croissance économique et technologique. Deuxièmement, ces plans nationaux ne seraient pas contraignants au regard du droit international, comme pouvaient l'être les obligations définies par les traités, mais chaque pays devrait accepter les termes d'un mécanisme autorisant les autres parties à vérifier en toute indépendance qu'ils menaient à bien les réductions promises. Troisièmement, les pays riches verseraient aux pays pauvres plusieurs milliards de dollars sous la forme d'aides, leur permettant de s'adapter et de faire face au changement climatique, pourvu que ces pays remplissent leurs engagements bien plus modestes. Bien amenée, cette nouvelle approche forcerait la Chine et les autres puissances émergentes à s'impliquer, tout en conservant les responsabilités communes mais différenciées du protocole de Kyoto. De plus, l'instauration d'un système crédible de validation des efforts nationaux nous donnerait un argument supplémentaire pour faire admettre au Sénat l'importance d'une loi sur le réchauffement climatique et, espérions-nous, préparer le terrain pour un traité plus robuste dans un avenir proche. Mais Todd, avocat passionné et méticuleux et ancien négociateur en chef de l'administration Clinton à Kyoto, nous a prévenu que nous aurions du mal à convaincre avec notre proposition. Les pays de l'UE, qui avaient tous ratifié Kyoto et amorcé la réduction de leurs émissions, tenaient à signer un pacte comportant un engagement contraignant de la Chine et des États-Unis. De leur côté, la Chine, l'Inde et l'Afrique du Sud s'accommodaient très bien de ce statu quo et s'opposaient farouchement à toute modification du protocole. Enfin, des militants et associations écologistes du monde entier assisteraient au sommet. Nombre d'entre eux considéraient que tout allait se jouer à Copenhague, et un traité non contraignant sans nouvelles limites draconiennes serait à leurs yeux un échec. Plus précisément, mon échec. « C'est injuste, m'a dit Carole, mais il pense que si vous prenez vraiment le réchauffement climatique au sérieux, vous devriez être capable de pousser le Congrès et les autres pays à prendre les décisions nécessaires. » Je ne pouvais pas reprocher aux écologistes de placer la barre haut. La science le réclamait. Mais je savais aussi qu'il était inutile de faire des promesses que je ne pouvais pas encore tenir. J'avais besoin de temps et d'une embellie économique avant de pouvoir convaincre l'opinion américaine du bien fondé d'un traité climatique ambitieux. J'allais aussi devoir amener la Chine à collaborer avec nous et probablement recueillir une majorité plus large au Sénat. Si le monde espérait que les États-Unis signent un traité contraignant à Copenhague, alors j'allais devoir lui faire réviser ses attentes, en commençant par celle du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Depuis 2 ans au poste de premier diplomate du monde, Ban Ki-moon n'avait pas encore fait grande impression sur la scène internationale. C'était en partie dû à la nature de son travail. Bien que la personne occupant le poste de secrétaire général de l'ONU régisse un budget se comptant en milliards de dollars, une bureaucratie tentaculaire et une farandole d'agences internationales, son pouvoir est largement indirect et repose sur sa capacité à guider 193 pays dans une direction plus ou moins identique. La relative discrétion de Ban était également la conséquence de son style réservé et méthodique, une approche point par point de la diplomatie qui avait fait ses preuves durant les 37 années qu'il avait passées aux affaires étrangères et dans le corps diplomatique de sa Corée du Sud natale, mais qui contrastait durement avec le charisme raffiné de son prédécesseur à l'ONU, Kofi Annan. On n'allait pas à un rendez-vous avec Ban en espérant des anecdotes passionnantes, des remarques spirituelles ou des idées éblouissantes. Il ne vous demandait pas de nouvelles de votre famille et ne disait jamais rien de sa vie personnelle. Au lieu de cela, après vous avoir serré vigoureusement la main et vous avoir remercié d'être venu, il s'élançait dans un flot d'éléments de langage et de faits bruts, exprimés avec un fort accent et dans le jargon sérieux et convenu d'un communiqué des Nations Unies. Malgré son manque de panache, j'en viendrai à apprécier et à respecter Ban. C'était un homme honnête, franc et incorrigiblement positif. Un homme qui, en plusieurs occasions, avait mené des réformes essentielles à l'ONU en résistant aux pressions de divers États membres et qui se rangeait instinctivement du bon côté des problèmes, même s'il ne réussissait pas toujours à entraîner les autres à sa suite. Enfin, il était persévérant, tout spécialement sur la question du réchauffement climatique dont il avait fait une de ses priorités. Lors de notre première rencontre dans le bureau ovale, moins de 2 mois après mon investiture, il avait commencé à me presser pour que je m'engage à participer au sommet de Copenhague. Votre présence, Monsieur le Président, enverra un signal très puissant concernant notre besoin urgent de coopération internationale pour lutter contre le réchauffement. Très puissant. Je lui avais exposé toutes les actions que nous comptions entreprendre pour réduire les émissions américaines, ainsi que les difficultés pour faire accepter par le Sénat un traité sur le modèle de Kyoto. Je lui avais décrit notre idée d'accord transitoire et expliqué que nous avions formé un groupe des gros pollueurs, à l'écart des négociations de l'ONU, pour tenter de trouver un terrain d'entente avec la Chine. Ban m'avait écouté en acquiesçant poliment, prenant quelques notes ou ajustant ses lunettes de temps à autre. Mais rien de ce que j'avais dit n'avait pu le faire dévier de sa mission principale. « Avec votre concours, Monsieur le Président, avait-il conclu, je suis certain que ces négociations pourront aboutir à un accord satisfaisant. » Et les choses ont continué ainsi pendant plusieurs mois. J'avais beau répéter mes réserves sur la direction que prenaient les négociations à l'ONU et marteler la position des États-Unis à l'égard d'un traité contraignant façon Kyoto, Ban me rabâchait qu'il fallait que je vienne à Copenhague en décembre. Il en a parlé lors des réunions du G20, il a insisté lors des réunions du G8, et pour finir, devant l'Assemblée générale des Nations unies, j'ai cédé et promis que je tâcherais de participer à la conférence si j'estimais probable qu'elle aboutisse à un accord viable pour nous. Je me suis ensuite tourné vers Susan Rice et lui ai avoué que j'avais l'impression d'être un lycéen qui accepte d'aller au bal de promo avec la première de la classe parce qu'elle est gentille et qu'il n'a pas le cœur de lui dire non. En décembre, quand la conférence s'est ouverte, mes pires peurs étaient en train de se réaliser. Au niveau national, nous attendions toujours que le Sénat fixe une date pour le vote de la loi sur le plafonnement des émissions, tandis qu'à Copenhague, le débat sur le traité était rapidement tombé dans une impasse. Hillary et Todd, que nous avions envoyés en éclaireur pour tenter de rallier des soutiens à notre proposition d'accord transitoire, me décrivaient au téléphone des scènes de chaos dans lesquelles la Chine et les autres BRICS campaient sur leur position. L'UE s'énervait contre la Chine et contre nous, les pays pauvres réclamaient une aide financière plus importante, le Danemark et l'ONU ne savaient plus où donner de la tête, et les associations écologistes s'arrachaient les cheveux devant ce qui ressemblait de plus en plus à un désastre. Tout cela sentait l'échec retentissant, et comme j'avais d'autres lois importantes à faire passer avant la trêve de Noël, Ram et Axe se demandaient s'il fallait vraiment que j'aille à Copenhague. Malgré mes doutes, j'ai décidé qu'une possibilité, même minime, de rallier d'autres dirigeants au sein d'un accord international l'emportait sur les conséquences d'un flop attendu. Pour rendre le voyage moins pénible, Alissa Mastromonaco m'a concocté une feuille de route épurée. Décollage pour Copenhague après une journée entière au bureau ovale, une dizaine d'heures sur place, tout juste le temps de prononcer un discours et de rencontrer quelques chefs d'État en tête-à-tête, et retour à la maison. Je dois quand même avouer que, en embarquant sur Air Force One pour mon vol de nuit, j'étais tout sauf enthousiaste. Je me suis installé dans un des gros fauteuils en cuir de la salle de réunion, j'ai commandé un verre de vodka dans l'espoir qu'il m'aide à fermer les yeux quelques heures, et j'ai regardé Marvin zapper sur la grande télé à la recherche d'un match de basket. Est-ce que quelqu'un a déjà pensé à la quantité de dioxyde de carbone que je rejette dans l'atmosphère en faisant ces voyages en Europe ? Lui ai-je demandé. Je suis à peu près sûr que, entre les avions, les hélicos et les cortèges de voitures, c'est moi qui ai la plus grosse empreinte carbone de toute la planète. A fait Marvin. C'est sûrement vrai. Il a trouvé le match qu'on cherchait, monté le son, puis ajouté « Mais vous devriez peut-être éviter de dire ça demain dans votre discours ».